Comme vous l'avez dit, hein, je ne suis pas un économiste, je suis encore moins un spécialiste de l'agriculture, hein, j'enseigne la philosophie. Ceci dit, je suis très content d'intervenir pour la première fois dans un lycée agricole, d'une part parce que, comme presque tous les Français, j'avais des grands-parents agriculteurs, hein, et puis parce que je connais assez bien ce milieu, j'ai des beaux-frères qui dirigent un GAEC, pas loin d'ici, et qui sont des dirigeants agricoles, et je sais que les problèmes agricoles sont particulièrement complexes, passionnants en ce moment. Je viens vous parler de quelque chose de plus général, hein, c'est-à-dire pourquoi travailler, et je voudrais commencer par une remarque sur cette question qui a dû intriguer sans doute un certain nombre d'entre vous, hein. En effet, c'est une question que personne n'aurait eu l'idée de poser dans les siècles passés. Et que peut-être, vous n'avez pas vous-même l'idée de poser aujourd'hui. Hein. Mes ancêtres paysans, depuis le Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle, hein, ne posaient pas cette question. Mon père, qui était ouvrier dans les années 50-70, ne se posait pas cette question, pourquoi travailler, hein, mais il posait d'autres questions. C'est-à-dire, comment allons-nous boucler les fins de mois, comment vais-je pouvoir nourrir et habiller convenablement mes enfants, hein, comment vais-je faire si l'usine réduit les heures supplémentaires ou si elle ferme, hein. Et certains d'entre vous se poseront peut-être des questions pas très différentes. Hein. Donc on pourrait penser, si vous voulez, que cette question « pourquoi travailler ?» est une question un peu artificielle, déconnectée de la vie réelle. Bref, le genre de questions, hein, qu'on pose, par exemple, au baccalauréat en philosophie, et qui quelquefois, c'est pas toujours le cas, hein, mais fait un peu bâiller d'ennui les candidats. Mais je crois, hein, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer, que si l'on y regarde d'un peu plus près, cette question est une question qui se pose aujourd'hui, hein, dans la vie réelle. Et je voudrais donc commencer par là. Pourquoi pose-t-on cette question aujourd'hui, hein, en 2010, hein. Et ensuite, nous examinerons s'il faut rejeter cette question, s'il faut tenter d'y apporter une réponse. Je vous proposerai un certain nombre de réponses, mais ce ne sont que des propositions. Hein. Et nous aurons l'occasion d'en discuter, puisqu'on va consacrer la moitié du temps de cette séance, comme on vous l'a dit, à la discussion. Personnellement, je vois trois raisons pour lesquelles aujourd'hui on pose cette question. J'irai très vite sur la première, parce que ça ne me paraît pas la question la plus importante, hein, mais la première est très simple, c'est que le travail humain, vous le savez, a permis de satisfaire plus vite et mieux, hein, un grand nombre de besoins, y compris des besoins qu'on appelle non naturels, hein, par exemple avoir un téléphone mobile, d'autres choses semblables. En d'autres termes, la productivité du travail humain a considérablement augmenté dans l'histoire. C'est une banalité que de le dire. Et cette augmentation, vous le savez, a permis de dégager du temps libre, un loisir de plus en plus étendu. Notre journée de travail, bien sûr, n'est plus du tout celle des paysans du Moyen-Âge dont je parlais tout à l'heure, ou celle des ouvriers du XIXe siècle. Et l'augmentation du temps libre a suscité chez certains une question. Ne pourrions-nous pas nous passer du travail, travailler encore moins, voire à la limite plus du tout, hein. Alors je dis chez certains parce que certains d'entre vous qui sont au plus près des réalités du travail se méfient peut-être de cette question et la trouvent un peu naïve, hein. J'y reviendrai, mais quoi qu'il en soit, je crois qu'on est devant un constat, une réalité incontestable. Depuis la fin du XIXe siècle, s'est développée dans certains milieux, dans certains pays, hein, l'utopie, disons, d'une société où il y aurait de moins en moins de travail, ou à la limite, que du tout de travail. Je ne voudrais pas insister sur ce point-là. Je voudrais insister sur une deuxième interprétation de la question. Mais pour vous présenter cette deuxième interprétation, il faut que je fasse un détour. Mais vous verrez, on reviendra à cette question. Un détour pour comprendre en quel sens, en quel autre sens on peut poser aujourd'hui la question « pourquoi travailler ?». Vous savez, en effet, que pendant longtemps, le travail a été une activité indigne, disons. réservée aux esclaves dans l'Antiquité, ou aux serfs pendant le Moyen-Âge. Hein. Pour vous donner un exemple, le citoyen grec, le citoyen libre, celui qui n'était pas esclave, hein, ou le seigneur médiéval, bien, il faisait tout autre chose que ce que vous vous appelez du travail. Il faisait de la politique, il faisait la guerre, il faisait de l'art, il s'occupait de religion, de philosophie, hein, mais il n'était pas en contact direct avec la matière. Hein. Il ne travaillait pas, car évidemment, on travaillait pour eux. Et vous savez aussi que, progressivement, on a reconnu une valeur au travail. Avec le christianisme, par exemple, hein, pour les chrétiens, hein, produire, ça n'est pas créer. Créer, c'est réservé à Dieu. Hein, mais produire, ça ressemble à créer. Hein, c'est imiter le créateur. Hein, c'est déjà une activité plus valorisée. Hein. Ensuite, au XVIIIe siècle, hein, dans ce grand mouvement philosophique qu'on a appelé les Lumières, bien, le travail a de plus en plus pris une grande valeur. Alors je voudrais vous donner un seul exemple, avant de revenir à ma question « Pourquoi travailler ?», un seul exemple de cette valorisation moderne du travail. Hein. Quand je dis moderne, ça veut dire à partir de la fin du Moyen-Âge, hein, jusqu'au XIXe siècle. C'est l'exemple de l'évolution d'un mot qui est tout à fait instructif. Hein. Un philosophe grec dont vous avez entendu parler, connaissez, qui s'appelle Aristote, hein, avait deux mots pour désigner ce qu'il appelle l'activité non théorique de l'homme. L'activité non théorique de l'homme, c'est l'activité que nous appellerions aujourd'hui pratique. Il employait le mot poiesis pour désigner l'activité de l'artisan, l'esclave, hein, par exemple la fabrication des poteries. Et puis il avait un autre mot, praxis, hein, d'où vient notre mot pratique, pour désigner l'activité du citoyen, par exemple la politique, ou l'éducation, la religion, etc. Et ce qui est important, c'est qu'il opposait les deux activités, poiesis d'un côté, praxis de l'autre, hein, en disant que la poiesis, ce que nous appelons le travail, hein, transforme seulement la matière, hein, transforme l'argile du potier, hein, et que la praxis, plus noble, transforme l'homme lui-même, par l'éducation par exemple. Donc la poiesis, ce que nous nommons le travail, hein, ne transforme pas l'homme, mais seulement la matière, pour Aristote. Et comparer cette conception d'Aristote, hein, pour voir l'évolution dans l'histoire de la manière dont on a conçu le travail, bien comparer l'évolution de cette conception d'Aristote avec ce qui s'est passé vers le 17e, vers le 18e siècle, hein. Et vous savez qu'à cette époque, s'est développée, en relation avec le développement économique, l'idée que le travail transforme non seulement la matière, mais transforme l'homme lui-même, enrichit l'homme. Bref, s'est développée l'idée, hein, que le travail a une valeur par lui-même, non pas seulement comme un moyen pour gagner sa vie, hein, mais comme une fin pour s'épanouir. Donc, si vous voulez, pour le dire dans les termes d'Aristote, le travail commence à devenir une pratique, c'est-à-dire quelque chose qui transforme l'homme lui-même. Et donc, vous savez qu'à la suite de ce changement qui a eu lieu, disons, à l'époque moderne, les Européens ont pensé le travail, pendant longtemps, comme une activité enrichissante. Alors, je dis « pendant longtemps ». Pendant longtemps, ils ont considéré le travail comme une activité enrichissante, et vous pouvez me demander, mais pourquoi pendant longtemps ? C'est en répondant à cette question que je vais revenir à la question que j'avais posée. Pourquoi pendant longtemps et peut-être pas toujours ? Parce que à partir de l'époque moderne, donc du XVIIe et du XVIIIe siècle, il y a quelques petits problèmes, non. On a considéré le travail, donc je l'ai dit, comme un enrichissement. Un enrichissement, pas seulement au sens monétaire. Hein. C'est peut-être la pile.
Non, c'est allumé. C'est allumé.
Ça marche, là ?
Non, remontez-le.
Voilà. Oui, voilà. Merci. Oui. On a considéré le travail, donc, pas seulement comme un enrichissement au sens monétaire, mais comme un épanouissement de la personnalité. Je vous donne une phrase que vous connaissez peut-être d'un philosophe qui s'appelle Hegel au début du XIXe siècle, hein, qui dit que le travail forme l'homme. Le travail forme l'homme, c'est-à-dire il développe des qualités qui, sans travail, seraient restées en sommeil. L'habileté physique, les qualités intellectuelles, les qualités morales aussi. Parce que le travail se fait souvent à plusieurs. Dans le travail, on apprend, par exemple, à avoir confiance en l'autre, ou bien à être fiable pour l'autre. On apprend aussi à partager, dans le meilleur des cas, de manière juste, l'effort et le résultat du travail. Alors pourquoi, pourriez-vous demander, s'il en est ainsi, les hommes se demandent aujourd'hui pourquoi travailler ? Bien, je crois que parce que tout ce que je viens de dire est vrai, mais dans une certaine mesure. C'est vrai dans une certaine mesure seulement, parce que ceux qui développaient cette idée de la valeur du travail, c'était des philosophes, des gouvernants, des entrepreneurs, des ingénieurs, mais l'immense majorité, vous l'imaginez, de ceux qui travaillaient connaissaient une autre réalité. Cette autre réalité, c'était le travail salarié, quelquefois exploité, pensez au XIXe siècle, au statut de l'ouvrier au XIXe siècle, et on leur parlait du travail comme une fin, l'épanouissement de soi, et ils ne connaissaient que le travail comme moyen, gagner sa croûte, tout simplement. Et on leur disait que le travail formait l'homme, et eux, ils constataient à la limite que le travail les déformait leur corps et leur esprit sous de très durs labeurs. On leur parlait du travail comme liberté, comme le seul moyen d'être indépendant, et eux, ils vivaient le travail comme une contrainte. Un travail organisé, quelquefois, par un autre, le patron, l'ingénieur, qui, quelquefois, profitait de leur travail. Et vous savez même qu'on est allé beaucoup plus loin au XXe siècle, qu'on a pu aller beaucoup plus loin que ce qu'on a appelé l'exploitation du travail, puisque les totalitarismes, par exemple, staliniens ou maoïstes, ont inventé, vous savez, quelque chose de terrible, qui s'appelait les camps de travail, où l'on brisait par le travail les opposants et même des innocents. Et puis on a pu aller même encore plus loin, puisque les nazis ont inventé, vous le savez, des camps d'extermination, qui étaient quelquefois aussi des camps de travail, et sur l'un d'entre eux, à Auschwitz, vous savez qu'il y avait cette parole terrible, en allemand il était écrit « Arbeit macht frei », le travail rend libre. C'est d'une ironie évidemment monstrueuse, sur un camp d'extermination, écrire « le travail rend libre », c'est-à-dire écrire ce qu'on avait dit depuis le XVIIIe siècle, pour vanter les mérites du travail, pour montrer que le travail est épanouissement de soi et liberté. Alors naturellement, nous n'en sommes plus là, bien évidemment. Nous n'en sommes même plus à l'exploitation du XIXe siècle, l'exploitation du travail dont j'ai parlé. Nous ne sommes plus au temps de Zola, qui a décrit le travail, vous le savez, vous avez peut-être lu des romans comme L'Assommoir. Mais même quand le travail n'est plus exploité, ou n'est pas exploité autant, vous savez qu'il prend souvent aujourd'hui des formes, quelquefois peu enrichissantes, qu'il est quelquefois divisé à l'extrême, quand on fait une tâche qui fait appel, par exemple, à peu de nos qualités physiques et intellectuelles, et quand quelquefois il est entièrement organisé, pensé par les autres. Pensez à certains nouveaux travaux, je dis nouveaux travaux. Par exemple, pensez à ceux qui travaillent dans des centres d'appel, dans des hotlines, par exemple, et à bien d'autres travaux de ce genre, qui ne sont pas des travaux particulièrement enrichissants. Alors, je ne dis pas qu'on ne peut pas, dans un tel travail, s'épanouir. On peut, dans le meilleur des cas, par exemple, y développer des relations de camaraderie très, très enrichissantes, mais on ne peut pas dire que ce travail forme toujours. Et contrairement à ce que l'on croyait, contrairement à des illusions qu'on a pu avoir à la fin des années 50 du siècle dernier, ou encore plus récemment, contrairement aux illusions qu'on a pu avoir avec l'apparition de l'ordinateur, avec l'automation, vous savez que ces travaux ingrats, peu qualifiés, ennuyeux, et quelquefois même stressants, vous avez vu tout ce qu'on dit du stress au travail en ce moment, tout cela n'a pas disparu. Tout cela n'a pas disparu, et cela coexiste dans les sociétés, ces travaux coexistent avec des sociétés, avec des travaux très enrichissants, très qualifiés, qui font appel en quelque sorte à l'homme complet et non pas à l'homme partiel. Hein. Il y en a parmi vous qui vont sans doute s'orienter vers le métier d'agriculteur, hein, qui aujourd'hui est un métier, vous savez, absolument magnifique, même s'il y a de problèmes très, très importants, hein, parce que c'est un métier complet. Hein. Ce n'est pas du tout un métier peu qualifié. Hein. Aujourd'hui, il faut des compétences en informatique, en gestion, en écologie, dans toutes sortes de matières, j'en reparlerai. Alors je reviens à la question, donc pourquoi travailler ? Et je crois que dans un deuxième sens, hein, je conclurai là le deuxième sens, hein, elle signifie ceci, pour résumer. Hein. Oui, bien sûr, nous devons gagner notre croûte. Mais pourquoi faudrait-il travailler davantage ? Pourquoi nous dit-on que le travail forme l'homme, qu'il est un épanouissement et non un simple moyen, qu'il est une fin, hein, alors que nous vivons tous les jours le travail comme quelque chose qui est le contraire de ce que vous nous affirmez. Donc pour le dire de manière un peu plus savante, hein, un peu plus pédante, il y a une crise aujourd'hui de la finalité du travail, hein, du moins de certains travaux, une crise à laquelle s'en ajoute une autre. Et c'est cette autre crise dont je voudrais parler en envisageant une troisième interprétation de la question. Donc, première interprétation, je résume, hein, pourquoi travailler si on a de moins en moins besoin de travailler ? Deuxièmement, pourquoi travailler si le travail n'est qu'un moyen de gagner sa vie, hein, et n'est pas toujours enrichissant ? Et il y a une troisième raison qui me paraît la plus importante aujourd'hui, hein, pour laquelle on pose cette question, pourquoi travailler ? Et là aussi, je voudrais faire un petit détour. Vous savez que à la fin du 19e siècle et au 20e siècle, des hommes ont pris conscience de ce qu'on appelait ce qu'on appelle l'aliénation du travail, hein, l'exploitation du travail, et les divers mouvements ouvriers, par exemple les courants socialistes, anarchistes, communistes, hein, ont rêvé d'une société où le travail serait véritablement un épanouissement, où le travail redeviendrait une fin. Et leur pensée était plus ou moins utopique, hein, elle a débouché sur des résultats plus ou moins convaincants, selon le cas, hein, mais ce n'est pas cela qui m'intéresse ici. Ce qui m'intéresse, c'est que ces hommes, à de rares exceptions, ne connaissaient pas quelque chose que nous connaissons aujourd'hui et qui est pour nous, au XXIe siècle, hein, un problème majeur. Je veux dire la crise écologique, hein, dont on va parler, c'est-à-dire les effets négatifs du travail humain sur la nature. Hein. Les hommes savaient, bien évidemment, hein, depuis l'Antiquité, ils ont su depuis toujours, hein, que le travail est un processus entre l'homme et la nature, hein, bien sûr. Hein. Par exemple, au XVIIe siècle, hein, vous avez quelqu'un qui s'appelle Descartes, hein, qui dit que l'homme devient, par le travail, hein, comme maître et possesseur de la nature. Donc les hommes ont toujours su que c'était un rapport entre l'homme et la nature. Mais ils se sont beaucoup plus intéressés, par exemple jusqu'au 19e, à autre chose, c'est-à-dire au travail comme rapport des hommes entre eux. Et par exemple, les mouvements syndicalistes, ouvriers, hein, se sont occupés du travail des enfants. Ils ont dénoncé les fausses promesses du travail, ils ont dénoncé le chômage, etc. Mais ils ne s'intéressaient pas aux dégâts de l'environnement, pardon, qui était existant, mais moins important qu'aujourd'hui. Hein. Et vous savez que les pays socialistes, hein, qui ont disparu aujourd'hui, les pays qu'on appelait socialistes, n'ont pas accordé une grande importance, hein, à l'époque aux dégâts portés contre l'environnement. Nous sommes aujourd'hui dans une situation très différente. C'est-à-dire que nous avons découvert que le travail humain, à grande échelle, peut avoir des effets destructeurs sur l'environnement, c'est-à-dire des effets réversibles ou non réversibles. Et nous savons que même le travail organisé de manière idéale, ce qui est loin d'être le cas, mais même si le travail n'était pas parcellisé, si tous les travaux étaient intéressants, épanouissants, même ce travail organisé librement par les travailleurs, même ce travail-là peut porter des atteintes à l'environnement, c'est-à-dire en dernier lieu à nous-mêmes et à nos descendants. C'est pourquoi je crois qu'aujourd'hui, les hommes et les femmes de nos sociétés se demandent de plus en plus pourquoi travailler. Et vous voyez, pourquoi travailler en un troisième sens. C'est-à-dire pourquoi travailler si le travail détruit la nature, si le travail détruit l'homme. Et vous savez que certains de nos contemporains, vous pouvez le constater facilement aujourd'hui, tombent dans un pessimisme et un découragement profond. Ce découragement, d'une certaine manière, est plus profond que celui que faisait naître l'examen des problèmes sociaux du travail, l'exploitation de l'homme par l'homme. Bien sûr, nous avons peut-être renoncé à rendre tous les travaux également intéressants, mais vous savez que tous les jours, nous luttons pour que le travail devienne de plus en plus intéressant, j'en parlerai, de plus en plus enrichissant. Par contre, l'idée de réduire ou d'éliminer les dégâts causés par le travail sur l'environnement peut faire naître aujourd'hui, peut faire naître chez un grand nombre d'entre nous beaucoup de doutes et parfois un découragement. Vous avez suivi sans doute, comme nous tous, vous avez suivi le sommet de Copenhague, ce sommet de Copenhague qui a débouché sur des résultats, disons, un peu mitigé, pas aussi important que ce qu'on pouvait espérer. Donc, pour résumer, en un troisième sens, que veut dire pourquoi travailler ? Eh bien, ça veut dire, pouvons-nous vraiment travailler en préservant la planète pour nous et nos descendants ? Voilà les trois sens que je donne à cette question, et je voudrais, pour terminer cet exposé, proposer trois réponses. Je dis bien que ce sont des propositions. J'insisterai là aussi beaucoup plus sur les deux dernières réponses que sur la première qui me semble moins intéressante. Mais je voudrais quand même dire quelque chose sur la première question. Donc pourquoi travaillons-nous ? Pourquoi devons-nous travailler ? Pourquoi ne pourrait-on pas travailler toujours moins, voire à la limite plus du tout ? Bien. Je dirais que l'idée d'une société où l'on travaillerait de moins en moins et à la limite plus du tout nous apparaît aujourd'hui comme une utopie. Une utopie dangereuse, car cela pour deux raisons. Parce que nous savons d'une part que les hommes comme les animaux vivent dans une situation de rareté et non pas dans une situation d'abondance. Alors bien sûr, il y a eu de minuscules communautés dans un passé très lointain qui vivaient de la cueillette, de la chasse, mais très vite, vous savez, le développement démographique et l'invention de nouveaux besoins nous ont fait perdre ce paradis. Quand je parle du paradis, c'est que je fais allusion dans la Bible, par exemple, quand les hommes ont été chassés du paradis, vous savez qu'ils ont été condamnés au travail, que le travail fait partie de la condition humaine. Tu travailleras à la sueur de ton front, dit la Bible. Et je crois que c'est encore le cas aujourd'hui, et c'est là la deuxième raison. Aujourd'hui, notre problème est de savoir comment nourrir l'humanité. Entre parenthèses, je vous renvoie à un livre que vos professeurs d'économie, et même peut-être vous-même, connaissent parfaitement. C'est un très beau livre que j'ai lu récemment, du directeur de l'École supérieure d'agriculture d'Angers, qui s'appelle Bruno Parmentier. Le livre s'appelle « Nourrir l'humanité ». Je vous conseille vivement ce livre, c'est une des meilleures synthèses, à mon avis, sur ce problème-là. Et face à ce défi gigantesque qui consiste à nourrir l'humanité, eh bien, les rêveries, je crois, de ceux qui imaginent qu'on travaillera toujours moins ou qu'on travaillera plus du tout, ces rêveries sont non seulement naïves, mais elles sont peut-être irresponsables et immorales. La seule manière de ne pas travailler, si on exclut le chômage, qui est un non-travail forcé, c'est de vivre au crochet des autres, en quelque sorte. Donc, qu'on le veuille ou non, je terminerai par là ma première réponse, donc nous sommes embarqués dans une situation qui est héritée du passé, avec laquelle nous devons compter, avec presque 7 milliards d'humains, avec des populations en compétition pour les ressources naturelles et énergétiques, hein, pour la terre, l'eau, avec des sociétés dont certaines d'entre elles ont des déséquilibres démographiques très grands, hein, certaines où il y a beaucoup de jeunes, certaines où il y a beaucoup de personnes âgées, comme les nôtres, hein, bien, je crois que, avec des inégalités de développement aussi, hein, je crois que nous n'avons pas le choix, nous devons travailler. Alors, cela ne veut pas dire, hein, je terminerai par là le premier point, cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas choisir comment travailler. Hein. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas choisir combien de temps travailler, ou ce qu'il faut produire, j'y reviendrai, hein, comment il faut consommer. Mais je veux dire simplement que le rêve d'une humanité qui travaillerait toujours moins, hein, et de moins en moins, et à la limite plus du tout, hein, cela peut paraître aujourd'hui comme un rêve naïf, dangereux, et un peu suspect. Suspect parce qu'à la limite, ce sont des Occidentaux bien nourris, hein, et bien habillés, qui peuvent entretenir de tels rêves, mais peut-être pas les Chinois, les Indiens, les Africains, etc. J'en viens à la seconde question, qui me paraît plus importante. Je voudrais proposer une réponse à la seconde question. Hein. La seconde question, pourquoi travailler ? Pourquoi travailler si le travail n'est pas ce qu'on en a fait au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, quand on parlait d'un travail enrichissant, hein, d'un travail qui formait l'homme. Et vous savez que les hommes, je l'ai dit, à la fin du XIXe siècle, hein, ont rêvé d'une société où le travail retrouverait en quelque sorte sa vraie nature, hein, ce qu'il n'aurait jamais cessé d'être, un travail qui serait enrichissant et libre. Alors j'ai parlé à propos de cela d'un rêve, d'une utopie, et vous pourriez me demander pourquoi, parce que tous les jours, hein, nous luttons dans nos lieux de travail pour un travail meilleur, plus enrichissant, plus libre. Hein. Bien, ma réponse sera qu'il y a deux manières, une manière utopique et puis une manière réaliste de rendre le travail plus libre et enrichissant. Et la manière utopique, bien, je crois que c'est celle qu'on peut appeler la manière globale. Qu'est-ce que je veux dire par la manière globale ? C'est de croire qu'il suffit, par exemple, de nouveaux procédés techniques, l'ordinateur, hein, ou d'abolir la propriété privée des moyens de production, d'organiser autrement, hein, la propriété des moyens de production, pour transformer le travail. Mais vous savez que l'histoire du XXe siècle nous a appris que, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, la simple évolution technique, par exemple l'apparition de l'automation, hein, n'enrichit pas mécaniquement le travail. Hein. Ce n'est pas une condition absolument suffisante. Hein. Et vous savez aussi que la propriété étatique des moyens de production, hein, a pu déboucher sur une propriété... un nouveau patron, l'État, en quelque sorte, hein, que ça n'a pas forcément amélioré les choses. Hein. Il me semble que il faut se méfier de ces solutions globales. Par contre, hein, la critique de l'utopie ne nous condamne pas à la passivité et à la résignation. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y avait une seconde forme une seconde manière d'améliorer le travail qui est une manière plus locale, moins globale. Alors qu'est-ce que je veux dire par une manière locale ? Bien, simplement, hein, qu'il y a des lycées où le travail, par exemple, est plus épanouissant que dans d'autres lycées. Tout simplement où les tâches sont définies de manière plus démocratique, où il y a un dialogue réel entre la direction, le personnel et les élèves. Hein. Ou pour prendre un autre exemple, vous savez tous que dans un GAEC ou dans une coopérative agricole, hein, le travail peut être plus satisfaisant, plus enrichissant et plus libre. Que dans certaines branches de l'industrie, du commerce, hein, le travail est plus ou moins parcellaire, plus ou moins ingrat, plus ou moins organisé collectivement. Hein, qu'on peut plus ou moins critiquer et améliorer l'organisation du travail. Et vous savez aussi que cela varie d'un pays à l'autre, hein, que donc les hommes ont un pouvoir sur l'organisation du travail, et que ce pouvoir sur l'organisation du travail, eh bien, il débouche sur une législation, hein, sur un droit du travail qui est très différent selon les branches, les pays, etc. Alors, voilà ce que je veux dire par l'idée d'une transformation réaliste du travail. Alors, pour le dire autrement, hein, je vais le dire sous une forme un tout petit peu différente, cela veut dire que le travail n'est déterminé ni par le type de technique utilisée, ni par le mode de propriété des moyens de production, hein, ni par le type de technique, hein, car on peut organiser différemment le travail avec une même technique. Par exemple, découper les tâches autrement, répartir et organiser différemment le travail. La technique, je crois que souvent, elle a bon dos. Hein. Soit on la diabolise, on dit elle est responsable de la mauvaise qualité du travail, soit au contraire, on l'idéalise. Hein. On dit c'est la technique qui va tout résoudre, il suffira d'introduire de l'automation pour que le travail devienne plus intéressant. Hein. En réalité, vous le savez, qu'il en va très différemment, hein, qu'il y a des centres d'appel, par exemple, pour reprendre l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, les hotlines, hein, où les travailleurs sont très peu formés, très étroitement spécialisés, et puis d'autres, où ils sont mieux formés, où ils s'occupent, où chacun s'occupe d'un champ de questions beaucoup plus vaste, hein, et a une plus grande marge d'initiative. Et je crois qu'on peut dire la même chose, donc, des modes de propriété des moyens de production. Pensez qu'il y a des entreprises privées, hein, où l'on sent bien au travail, où on a l'impression de se réaliser, de développer ses qualités physiques, intellectuelles et morales. Et puis il y en a d'autres. On a vu récemment avec France Télécom, hein, les problèmes de stress, pas seulement France Télécom, mais d'autres entreprises. Hein. Il y en a d'autres où ce n'est pas le cas. Hein. Et inversement, il y a des institutions publiques, des administrations par exemple, hein, qui sont très hiérarchiques, quasi militaires, où le travail est pénible, ou simplement ennuyeux. Hein. Et puis il y en a d'autres qui sont des administrations dynamiques, où travailler est un plaisir, en plus d'être un moyen de gagner sa vie. Voilà la deuxième réponse que je donnerais, donc une réponse, si vous voulez, d'un optimisme mesuré. Oui, nous pouvons... Hein, nous pouvons améliorer le travail, à condition de ne pas croire que c'est la technique qui va le faire à notre place, à condition de ne pas croire que c'est simplement la propriété des moyens de production qui va le faire. Alors je voudrais, pour terminer, en venir à la dernière question, qui paraît aujourd'hui la plus intéressante. Pourquoi travailler ? Pourquoi travailler alors que notre travail se retourne contre nous, alors que le travail semble détruire la nature et l'homme ? Et j'ai dit plus haut que cette question témoigne souvent d'une grande inquiétude, de grands doutes, souvent d'un grand pessimisme et découragement. Mais là aussi, je crois, et c'est ce que je défendrai, c'est qu'il y a une place pour le rêve. Hein. Une place pour le rêve sous deux formes, sous une forme utopique et sous une forme réaliste. Deux manières, donc, d'aborder les très graves problèmes écologiques que rencontre la planète. Alors, qu'est-ce que je veux dire par une forme utopique ? La première, donc la première forme, la première réponse que je nomme utopique, elle peut prendre des formes plus ou moins naïves. Elle peut prendre, par exemple, la forme naïve et simpliste d'un retour à un mode de vie pseudo-naturel. Pourquoi je dis pseudo-naturel ? Parce que vous savez que les hommes n'ont jamais vécu de manière purement naturelle. Hein. Même dans les sociétés les plus pauvres... Hein, on ne fait pas seulement que on travaille pas seulement. Hein. Il y a des fêtes, il y a du superflu, il y a des mythes, hein. Il y a toutes sortes d'activités. La vie ne se réduit pas à un mode de vie simple et frugal. Hein. Alors évidemment, vous ne croyez pas en ce retour à un mode de vie naturel, mais il y a aussi, je crois, d'autres formes, hein, de cette pensée utopique. Par exemple. Hein, penser que la crise écologique peut faire naître chez certains, et peut-être chez certains d'entre vous, hein, l'idée qu'il faudrait aller vers une décroissance. Alors, quelques mots sur cette idée de décroissance. Hein. Cette idée est une idée, vous le savez, qui est souvent assez peu claire, puisque on peut se demander décroissance de quoi ? Vos professeurs d'économie ont vous en parler. Est-ce qu'il s'agit de parler de la décroissance du PIB, du produit intérieur brut, hein ? Est-ce qu'il s'agit de la décroissance de la quantité d'énergie et de matières premières, hein, soit en valeur absolue, soit par habitant ? Est-ce qu'il s'agit de la décroissance de l'empreinte écologique? Je pense que les BTH au moins connaissent ce concept d'empreinte écologique qu'on mesure, vous savez, par hectare et par habitant. Hein. C'est le nombre d'hectares qu'il faut pour un habitant pour produire les ressources et aussi pour absorber les rejets de cet habitant. Hein. Ou bien encore, s'agit-il de la décroissance démographique? Si vous avez suivi les débats sur la décroissance, hein, on y parle en ce moment, certains préconisent une décroissance démographique. Hein. Bref, c'est un concept qui n'est pas très clair, et c'est aussi une idée qui est contestée par de nombreux spécialistes. Par exemple, les économistes en ce moment font remarquer, vous l'avez peut-être vu, qu'on peut avoir, en période de crise, une décroissance du PIB, et même une décroissance de la consommation d'énergie et de matières premières, et en même temps, une aggravation des atteintes à l'environnement, par exemple du fait que les investissements en technologie non polluantes sont freinés. Je pense que vous avez remarqué qu'en ce moment, la crise économique, qui conduit à une certaine décroissance, conduit aussi à affaiblir, différer ou supprimer des mesures écologiques. On en voit tous les jours des cas, on aura peut-être l'occasion d'en parler dans le débat. Il me semble donc qu'il y a une seconde manière, que j'appellerais réaliste, de traiter la crise écologique et qu'on résume souvent par les expressions « développement durable » ou « croissance soutenable », hein, c'est à peu près la même chose. Et elle consiste à dire, je crois que... qu'on ne doit pas se contenter d'une solution globale miracle, qu'on résume par le mot de décroissance, hein, mais qu'il faut mettre en place, c'est beaucoup plus difficile, hein, une batterie de mesures, toute une série de mesures qui se mettent en place d'ailleurs au niveau international, européen et national. Hein. Ces mesures, vous les connaissez, nous sommes en plein dedans en ce moment, des nouvelles sources d'énergie, hein, des nouvelles technologies vertes, des nouvelles fiscalités qui rendent la pollution plus coûteuse. Vous voyez les débats autour de la taxe carbone. Des incitations fiscales aussi, encourageant les citoyens à se comporter autrement, sans oublier d'autres mesures comme l'éducation. L'éducation des plus jeunes âges, des enfants et des citoyens, pour les inciter à se comporter autrement. Alors c'est une voie, naturellement, qui est plus difficile, qui est même très difficile, on l'a vu par exemple au sommet de Copenhague, difficile pour toutes sortes de raisons, hein, parce qu'elle conduit à remettre en cause des modes de vie auxquels nous sommes habitués. Hein. Elle est difficile aussi parce que vous savez que le premier qui prend des mesures en faveur de l'environnement risque d'être pénalisé, au niveau de la concurrence avec d'autres pays qui ne prendraient pas simultanément les mêmes mesures. Hein. Difficile aussi parce que du côté des pays riches, cela impose sans doute un certain nombre de sacrifices, hein, pour éviter aux pays pauvres de faire les frais d'une crise dont, après tout, ils ne sont pas responsables. Mais je crois que, personnellement, c'est la seule voie possible, c'est-à-dire que, contrairement à ce que disent les partisans de la décroissance, hein, ces mesures réalistes ne passent pas par la décroissance, hein, mais par une croissance différente, c'est-à-dire par un nouvel effort du travail humain, un surplus de science et de technique, hein, pour contrer les effets négatifs produits par une science et une technique qui jusqu'ici ont été insuffisamment soucieuses de l'environnement naturel. Donc pour le dire de manière un peu différente, pour résumer, il me semble que l'idée de développement durable repose sur l'idée qu'il peut y avoir à la fois une croissance de la production des biens et des services et une intensité énergétique plus faible grâce aux progrès scientifiques et techniques et à la découverte de nouvelles sources d'énergie, et aussi grâce au débat démocratique, hein, qui peut faire émerger ces solutions. Alors je m'en tiendrai, donc, avant de voir le débat, à ces quelques remarques, pour résumer tout ce qui vient d'être dit. Hein. Il me semble que l'on peut apporter trois réponses à cette question qui est une question qui me semble une question importante aujourd'hui, hein, une question essentielle. Pourquoi travailler? Je vais résumer très rapidement ces trois réponses. La première réponse, c'est la plus simple. Hein. Nous devons travailler car la situation de rareté dans laquelle vit l'homme est une situation indépassable. Nous ne vivrons jamais dans l'abondance, et cela d'autant plus que les besoins humains sont variables, ne sont pas naturels, que l'humanité crée sans cesse de nouveaux besoins, et des nouveaux besoins qui ne sont pas tous des besoins artificiels ou superflus, même si ça peut arriver. Hein. Donc le travail est inséparable de la condition humaine, et il est inséparable aussi du moment historique dans lequel nous sommes. Renoncer à travailler, c'est renoncer non seulement à notre prospérité, mais c'est aussi renoncer à sortir une grande partie de l'humanité de la misère hein, dans laquelle elle se trouve encore. Hein. Ceux qui, en Europe, hein, dénoncent par exemple la course chinoise ou indienne à la croissance, qui pose de redoutables problèmes, hein, bien sûr, au niveau écologique, hein, mais devraient quand même penser un peu plus hein, au progrès gigantesque que représente le travail humain dans des pays qui, je le rappelle, hein, connaissaient encore, il y a peu de temps, des famines terribles. La deuxième réponse à la question « Pourquoi travailler ?», eh bien, je crois qu'elle a été dégagée par les philosophes du XVIIIe siècle hein, qui ont dit « Le travail forme l'homme ». Il ne forme pas seulement la matière, et il le forme malgré tout. Malgré tout, hein, malgré tout ce que nous avons connu et que nous connaissons encore, c'est-à-dire malgré l'exploitation, malgré l'aliénation. Hein, vous connaissez tous hein, la fierté de ceux qui, même quand leur métier ne les satisfait pas, hein, même s'il ne leur rapporte pas beaucoup, même s'il est quelquefois organisé par d'autres qu'eux, et pas exactement comme ils le voudraient, hein, mais la fierté de ceux qui trouvent une satisfaction à travailler. Il y a un philosophe français, Jean-Paul Sartre, hein, qui disait que quand on est seul devant son établi, ou son champ, ou son bureau, hein, même si on a un maître qui n'est pas entièrement satisfaisant, hein, on oublie le maître, on oublie celui qui organise le travail et quelquefois qui en profite à votre place, hein, et on pense plus qu'au travail bien fait. On pense à l'ordre qu'on crée dans le monde hein, sans travail. Hein, la nature est un grand désordre, hein, vous qui êtes spécialisé d'agriculture, vous le savez. Hein. On pense à la liberté qu'on gagne par le travail, pensez aux femmes qui n'ont pu obtenir des droits égaux. Les femmes en France n'ont obtenu le droit de vote, on en parlera cet après-midi en 1944, hein, mais elles n'ont pu obtenir des droits égaux à ceux des hommes que lorsqu'elles ont été intégrées dans le travail. On pense aussi à toutes ces potentialités qui ne seraient jamais développées en nous sans le travail, c'est-à-dire les habiletés techniques, les savoirs acquis pendant le travail, les relations de confiance et de solidarité avec les autres. On pense aussi à la justice qu'on introduit dans le monde par le travail, parce qu'on travaille avec autrui, parce qu'on partage justement les tâches, parce qu'on participe par son travail à la solidarité envers les plus défavorisés, par les impôts, par exemple, que vous payez, hein, pour que ceux qui ne travaillent pas, les handicapés, les malades, les chômeurs, bien temporairement, puissent recevoir une aide que vous financez. Et dire cela, je crois que ce n'est pas idéaliser le travail humain, car on peut le dire sans oublier tout ce qui demande d'être modifié dans le travail humain, afin qu'il devienne une activité plus enrichissante et libre. Je crois qu'il n'y a pas d'autre moyen d'améliorer le travail que d'entrer d'abord dans le travail, même si celui-ci est modeste, même s'il ne correspond pas ou pas immédiatement à ce que vous voulez. Celui qui rejette le travail parce que le travail ne lui convient pas immédiatement, je crois qu'il fait preuve d'un peu de naïveté, puisque le monde est ce qu'il est. On ne doit pas s'attendre à ce que le monde s'accorde immédiatement à notre désir. Hein. Alors, inversement, on n'a pas à régler immédiatement notre désir sur l'ordre du monde, hein, ce qui serait adopter une attitude passive. Hein. Mais je crois qu'il y a une solution intermédiaire entre les deux, hein, qui consiste à choisir de travailler tout en améliorant, au niveau individuel, au niveau collectif, le travail humain. Quant à la troisième réponse, La troisième réponse, je la résumerai ainsi. Pourquoi travailler à notre époque ? Bien, pour refuser le découragement, pour refuser le pessimisme historique devant la crise écologique, pessimisme qui, entre parenthèses, est une facilité, une solution paresseuse, bien autant que l'optimisme historique. Donc pour refuser ce pessimisme, et nous devons travailler pour réparer les dégâts causés par le travail humain. Je crois que la situation de l'homme au travail aujourd'hui est complexe, c'est-à-dire qu'il doit tenir compte non seulement de son travail, de ce qu'il souhaite obtenir, mais à chaque instant, de tous les effets pervers de son travail, c'est-à-dire de tous les effets imprévus et négatifs que son travail peut produire sur la nature. Donc nous vivons, nous avons atteint aujourd'hui au XXIe siècle, hein, ce que l'on pourrait appeler le stade réflexif du travail, hein, c'est-à-dire que nous ne pouvons plus du tout travailler sans réfléchir à notre travail, sans réfléchir aux conséquences qu'il peut avoir sur nous et sur l'ensemble de la nature. Alors, je résumerai tout cela en disant, et nous allons en discuter, que le travail me semble plus que jamais aujourd'hui une valeur pour l'homme. Mais en disant cela, c'est une valeur sur l'homme, c'est une valeur pour l'homme, je crois qu'on peut le dire aujourd'hui au XXIe siècle, d'une manière nouvelle, c'est-à-dire pas exactement comme on chantait les louanges du travail. Au XIXe siècle, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, nous sommes d'une certaine manière moins naïfs face au travail aujourd'hui. Nous pouvons dire que le travail est une valeur fondamentale, sans oublier l'esclavage. N'oubliez jamais l'esclavage. Hein. Sans oublier l'exploitation, sans oublier le servage, hein, sans oublier la longue et triste histoire du travail, sans oublier le travail des enfants, qui n'a pas disparu hein, dans notre monde. Hein. Il y a encore des enfants qui sont exploités au travail. Hein. Nous devons tout faire pour que cela cesse. Hein. Sans oublier les camps de travail qui pourraient revenir un jour. Hein. Sans oublier tout simplement qu'il y a quantité de travaux encore ingrats, encore peu qualifiés, et que nous devons tout faire hein, en tant qu'individus et collectivement pour améliorer ce travail. Je terminerai par une formule. Une formule que j'aime beaucoup d'un philosophe et homme politique italien de l'entre-deux-guerres hein, du XXe siècle qui s'appelle Antonio Gramsci. Et Antonio Gramsci avait une formule hein, très simple. Il dit qu'il faut avoir le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. Pessimisme de l'intelligence, pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas oublier ce qu'a été le travail, qui n'a pas été seulement un enrichissement pour nous, qui ne l'est pas toujours aujourd'hui, qu'il y a d'énormes problèmes à deux niveaux, au niveau des rapports de l'homme et de la nature, et au niveau des rapports des hommes entre eux, puisque le travail, ce sont ces deux rapports, qu'il faut avoir de la lucidité face au travail, mais qu'il faut en même temps avoir de l'espoir, ce qu'il appelle l'optimisme de la volonté, parce que le travail s'est beaucoup amélioré au niveau des rapports entre les hommes, il reste beaucoup à faire. Hein. Notre tâche, je crois, la tâche du XXIe siècle, et sans doute des tâches à venir, c'est d'améliorer le travail dans l'autre dimension, c'est-à-dire dans la dimension du rapport du travail à la nature, si nous voulons tout simplement, si nous voulons que l'humanité continue à exister. Voilà, j'en suis resté à des considérations assez générales. J'ai voulu balayer le plus largement possible le problème. Voilà les trois manières dont j'entends cette question et les trois réponses personnelles que je propose. Mais comme je l'ai dit, ce ne sont que des réponses personnelles et j'espère que vous allez me contredire ou proposer d'autres réponses. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Il y a une question au fond là-bas.